France Culture. Les nuits de France Culture.
Savez-vous ce que signifie clarifier la planète? Le mot paraclé ou encore le mot tétant? Si vous répondez par la négative, c'est tout à fait normal, voire rassurant. Ce sont des termes empruntés à diverses sectes, qui pour convaincre et isoler leurs disciples du monde, n'hésitent pas à créer leurs propres mots, voire d'une certaine façon leur propre langage. Le but? Isoler ces adeptes du monde, rendre leurs mots incompréhensibles pour autrui, tout en créant l'illusion d'un savoir secret, possédé exclusivement par celles et ceux qui suivent l'enseignement du gourou et les préceptes des textes sacrés. Car les sectes, tout au long du XXe siècle, ont su faire usage du pouvoir du langage pour assouvir leur désir de puissance, en contrôlant la sociabilité et la pensée de leurs adeptes. C'est aussi une excellente façon de se protéger du monde extérieur. Un langage opaque rend la secte difficile à infiltrer, à critiquer, et devient un vrai ciment social qui unit les membres, dont la communication est ainsi limitée. Le langage peut aussi servir de cache-misère, de camouflage pour les activités d'une secte donnée. Les moonistes créent par exemple une association nommée SOS Droits de l'Homme. L'église de Scientologie se cache, notamment pour recruter de nouveaux adeptes, derrière la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, ciblant bien sûr les personnes les plus vulnérables dans une forme de cynisme sans limite. C'est donc du langage des sectes que traite ce brillant numéro de Tire ta langue d'Antoine Perrault et Françoise Estève, avec notamment Jean-Marie Abgral, Xavier Pasquini, Marine Tavernier, Annick Drogou et de nombreux témoignages de victimes et de proches de victimes. Première diffusion le 16 avril 1999 sur France Culture.
Notre séance d'aujourd'hui est envouée à la célébration de la langue dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde.
Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve. C'est...
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par François Connac.
À Montreuil, on dit ouais, il y a une courave. Ouais, c'est une courave, ouais.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Mais que fait donc ce mec, un micro dans la main? Mais que fait-il donc? Il ne peut plus l'arrêter. Mais ce n'est pas de sa faute, il s'est tiré.
Connaissez-vous Ronald Lafayette Hubbard, 1911-1986, l'inventeur de la dianétique, une méthode plus retorse que celle du bon docteur Coué? Ronald Lafayette Hubbard, donc, publiait en 1980, 6 ans avant de mourir dans son lit, le programme de purification et la guerre atomique. On pouvait y lire « En cas de guerre atomique, dans les zones soumises à de fortes retombées, seuls les scientologues seront capables d'agir. Ceux qui auront suivi une procédure de purification complète et correcte survivront, là où d'autres, ayant moins de chance, périront. Le sieur Hubbard, grand brûleur d'étapes spirituelles par devant l'éternel, s'occupait donc des noirs lendemains et non des toutes fins dernières d'eschatologie. La secte qu'il fonda, l'église de Scientologie, se considère néanmoins, et est parfois considérée, comme une religion avec des fidèles et non des adeptes. Il y a donc un problème de nomination. Difficile d'appeler un chat, et une secte. Tire ta langue ne pouvait que s'intéresser un jour ou l'autre à cet univers linguistique opaque où tant de mots berceuses aboutissent à tant de lavages de cerveau. Vous allez donc entendre le documentaire de Françoise Estève réalisé par Brigitte Bouvier, « Langage des sectes ». Ensuite, vers 11h15, nous nous entretiendrons avec Annick Drogou du Centre contre les manipulations mentales, Centre Roger Icor, et auteur du Dico des sectes. Mais d'abord, notre chroniqueur, sécateur d'étymologie, Philippe Barthelet.
Prosécution. Les sectes nous proposent un exemple remarquable de mutation étymologique. Le mot viendrait de sécuta, ce qui suit, et désigne tout d'abord l'ensemble des disciples ou sectateurs. Une secte n'est ni plus ni moins qu'une école, et les écrivains du temps du grand roi, Pascal ou Bossuet, fréquentent les sectes antiques sans trop penser à mal. Ils ne tarderont pas à y penser, Bossuet surtout, pour employer secte en un sens nouveau, inspiré au siècle précédent par les tumultes de la Réforme. Mais en passant de Pythagore ou d'Épictète à Luther et à Calvin, le mot a changé d'origine. Non plus sécuta, ce qui suit, mais secta, ce qui est retranché. Les mots ont sur les arbres cet avantage, qu'ils peuvent changer de racine selon le temps qu'il fait. Ce que leur étymologie reproche aux sectes, c'est qu'elles sont le contraire des insectes, soit quelque chose qui peut se couper. Perspective inacceptable aux yeux de quelques-uns, qui prennent leur obsession de la totalité pour le souci de l'universel et crient au complot contre la République, la chose commune, dès qu'une chapelle devient à leur gré trop missionnaire. On appela sectarisme, à la fin du XIXe siècle, ce zèle à dénoncer partout des sectes à l'œuvre pour miner le corps social. Il fallait les prendre au mot, et puisqu'elles s'en coupaient d'elles-mêmes, le bon ordre politique exigeait qu'on les en retranchât d'abord. C'était être fidèle à l'inspiration des grands ancêtres, lesquels ne réduisaient pas, comme nous, la devise de la République à son premier distique, liberté, égalité, fraternité, en oubliant le second, ou la mort, qui lui donne pourtant tout son sens. Fidèle à son ambiguïté d'origine, le latin distingue parmi les composés de secta le prosector, celui qui coupe, ampute, en particulier pendant les sacrifices, du prosecutor, celui qui accompagne. L'ambiguïté antique n'existe plus chez les modernes, et les Anglais appellent prosecutor, comme on sait, leur ministère public.
Avançons avec le cœur du Père pour restaurer le monde en versant notre sang pour le ciel, notre sueur pour la terre et nos larmes pour les hommes. Personnellement, je serais trop honoré si je devais mourir martyr pour la cause de Dieu aujourd'hui.
Dieu que je l'aime, l'aime, l'aime. Dieu que je l'aime.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Quand on rencontre un dévot de Krishna, on peut voir qu'il est toujours très préoccupé. Alors, c'est normal parce qu'il a une obligation chaque jour, c'est de réciter un mantra, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Rama, enfin, etc. Et il doit le réciter 1728 fois par jour pour que la journée soit réussie. Alors ça, c'est à faire, mais en plus des charges domestiques qu'il a à remplir. Alors c'est pour ça qu'il a un chapelet, il égrène son chapelet tout au long de la journée. Et si la journée s'écoule sans qu'il ait pu le réussir à prononcer 1728 fois, eh bien, le lendemain, il faut qu'il complète. C'est-à-dire que s'il a plusieurs jours de retard, ça devient un enfer. Donc c'est une façon tout à fait basique de tenir un individu et le tenir au plus profond de lui-même parce qu'il pense que tout le temps qui passe est du temps de perdu et du temps qui va jouer contre lui éventuellement dans une vie future. Parce qu'il y a bien sûr le principe de réincarnation derrière tout cela chez les dévots de Krishna.
Il se baptise révérend, berger, nouveau messie, se sacre maître des ovnis, seigneur des immortels voyageurs du temps, commandant en chef des forces spatiales extraterrestres, tétan opérant au T-75. Le terme originel de gourou vient d'un mot sanskrit qui signifie vénérable. Voici donc les nouveaux vénérables de notre temps qui drainent vers leur délire entre 200 000 et 300 000 personnes en France. Les étudiants et les cadres d'entreprise sont les cibles privilégiées de ces dernières années. les suicides ou meurtres collectifs des adeptes de l'ordre du Temple solaire, des affaires de pédophilie et de prostitution, plusieurs décès consécutifs à des refus de traitements médicaux parmi les victimes des enfants, ont récemment alerté l'opinion publique. Les hommes et les femmes enrôlés dans des groupements sectaires n'étant pas tous simples d'esprit ou déséquilibrés, loin s'en faut, une question vient tout naturellement à l'esprit. Comment une personne à l'origine saine, physiquement et mentalement, peut-elle en arriver à adhérer à des discours délirants et à adopter des comportements irrationnels et dangereux? Il est évident que sont mises en œuvre dans certaines sectes des techniques mentales, physiques et physiologiques de conditionnement des individus. Nous nous pencherons aujourd'hui sur l'une d'entre elles, l'utilisation stratégique du langage comme élément de manipulation mentale. Docteur Jean-Marie Abgral, qui vient de publier aux éditions Kalman-Lévy « Les sectes de l'Apocalypse ».
Ça fait partie effectivement des stratégies des sectes, d'utiliser à la fois des nouveaux langages, des néo-langages, des mots nouveaux et des pensées différentes qui mettent la personne, disons, en état de rupture avec son ancienne culture. À partir du moment où on commence à modifier le mot lui-même, on modifie progressivement aussi le contenu, la symbolique, et on reconstitue une histoire qui est très loin de l'histoire classique que tout le monde admet.
Donc on substitue un langage à un autre.
Soit on substitue un langage à un autre, soit on crée un nouveau langage. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'utilisation d'un mot commun qui est dévié de son sens courant. Par exemple, la scientologie va utiliser le terme de purifier, plutôt de clarifier la planète pour dire qu'en fait on va convertir la planète. Alors le terme de clarifier, qui est un terme qu'on pourrait utiliser, je veux dire, en physique, on clarifie l'eau et on enlève les impuretés, là ça devient un terme théologique puisqu'on va convertir. Donc ça c'est un mot qui est détourné de son sens propre. Après on peut créer des mots nouveaux. Vous avez par exemple la notion de tétan, qui est aussi une notion scientologique. Le tétan, T-H-E-T-A-N, n'a pas d'équivalent dans le langage courant. Ça pourrait s'assimiler un peu à l'âme ou à une force cosmique. Vous avez aussi la création d'un langage qui peut être purement initiatique et qui va évoluer au fil des grades décernés. Dans l'ordre du Temple solaire, on utilise par exemple des mots qui sont utilisés classiquement en langage théologique ou qui sont dans la Bible. Le paraclet, par exemple, le paraclet qui est l'Esprit Saint. Donc ça c'est un mot qui est pris du langage biblique et qui est ensuite transformé pour devenir une notion initiatique qui correspond davantage à une révélation initiatique qu'à l'Esprit Saint biblique. Mais on a aussi des mots qui sont sortis, par exemple, d'un langage spécifique, comme par exemple l'alchimie. L'ordre du Temple solaire utilise, par exemple, les termes d'arché, A-R-C-H-E-E. C'est le feu divin, c'est le feu alchimique sur lequel s'effectue la transformation de la pierre philosophale, mais s'effectue aussi la transformation de l'humain. Et l'utilisation de ce mot sert en fait de signe de reconnaissance aux adeptes pour montrer qu'ils appartiennent au même courant d'idées, mais aussi comme, j'allais dire, signe d'affirmation de leur appartenance au groupe. La maîtrise de ces mots est essentielle pour passer d'un degré à un autre degré.
Jeannine Tavernier, présidente de l'UNADFI, Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu.
Chaque secte a son type de langage et puis ça se fait pas comme ça. Bon, il y a des séances en groupe, il y a des stages, des séminaires et puis il y a des textes aussi. Donc il faut expliquer le langage. Il faut savoir que la scientologie a un très très gros dictionnaire avec un nombre de mots incalculables qui sont tout à fait typiquement scientologues. Donc ça s'apprend tout ça. Bon, par exemple, on est clair, avant on est préclair, on devient tétan, etc. Qu'est-ce qui comprend ce langage ? Ce ne sont que les adeptes de la scientologie. Je prends l'exemple, par exemple, des enfants de Dieu, où les mots n'ont pas le même sens, et à l'intérieur de la secte et à l'extérieur. Alors, une fois que l'adepte a acquis ce nouveau langage, on va lui dire, mais tu sais, ta famille ne va pas te comprendre, tes amis, etc. Et effectivement, quand ils sortent à l'extérieur, quand ils vont dans leur famille, ils ne sont pas compris, puisque le même mot n'a plus le même sens. Et quand ils reviennent, ça fait donc, ça justifie, si vous voulez, ce que dit la secte, en effet, je suis incompris, je ne suis compris que dans mon groupe.
Ce nouveau langage les met en fait en porte-à-faux avec la société.
Tout à fait. Bon, moi je prends l'exemple des enfants de Dieu, qui s'appellent maintenant famille d'amour. Il faut savoir que par exemple, lorsqu'on dit, on parle d'un bébé, eh bien un bébé pour la secte, cela veut dire les nouveaux disciples en cours d'apprentissage. Bon, il y a aussi roi ou reine. Un roi ou une reine, ce sont les sympathisants qui aident financièrement la famille. Bon, alors, vous vous rendez compte, tout ça, c'est très déstabilisant pour l'adepte qui, lui, est complètement en insécurité à l'extérieur. Et puis, il n'a qu'une envie après, c'est de retourner dans la secte où, enfin, ça y est, ils ont le même langage.
Moïse David a dit dans les enfants de Dieu, et c'est lui qui a fondé le groupe. Et mes premières journées, je passais peut-être une heure ou une heure et demie à lire ses lettres. Une demi-heure de lecture biblique, ça faisait quand même deux heures de lecture où c'était, je dirais pas du bourrage de crâne, mais je sais pas quoi dire autrement. Bon, ben, faut voir que tous ces écrits transforment tes pensées, et c'est un simple conditionnement. Mais un conditionnement qui rend tous ces jeunes qui au début sont tous différents, qui ont tous des personnalités différentes, qui sont tous des individus différents, ça les rend tous semblables.
Je vais vous pousser dans l'irrationnel. Il n'y a pas d'autre voie, il faut vous pousser dans l'irrationnel et ainsi tout se fait sans peine. Plus vous êtes prêts, plus je vais mettre en vous de choses qui sembleront folles aux yeux des autres. À ce moment, je vois que vous êtes prêts à être fous, que vous n'êtes plus effrayés du regard des autres et de leur opinion, que vous ne craignez même plus votre propre raison.
Il y a une culture de rupture qui s'installe et il y a surtout une forme de paranoïa de l'exclusion. Donc, on a comme stratégie immédiate le fait de se retourner uniquement vers les personnes du groupe auquel on appartient, c'est-à-dire en l'occurrence la secte. Et on se coupe des personnes extérieures, c'est-à-dire les personnes qui peuvent vous amener à faire une critique à la fois du discours, du langage et de la pratique intrasectaire. La deuxième démarche, c'est que pour franchir les étapes, il faut maîtriser certains éléments qui sont intrinsèques à la secte. Donc, le discours est un de ces éléments. Au même titre que vous devez, par exemple, donner des mots de passe ou vous devez faire la preuve de votre conviction en telle ou telle idée, le mot en lui-même est une forme de reconnaissance. Alors ça, on le connaît dans les groupes initiatiques, c'est-à-dire que même en franc-maçonnerie, le maître maçon va demander à l'apprenti tel ou tel élément et l'apprenti doit utiliser le mot exact. Dans la secte, c'est exactement pareil. Si vous maîtrisez le mot exact, vous maîtrisez l'idée qui est derrière le mot. Et si vous maîtrisez l'idée qui est derrière le mot, automatiquement, vous faites la preuve de votre adhésion à la philosophie du groupe. Donc, vous pouvez progresser. Donc ça, c'est la deuxième. Et la troisième fonction est une fonction, j'allais dire, à la limite de protection. C'est que dans un groupe, si vous voulez, quelqu'un s'infiltre au sein d'une secte, la personne va être identifiée immédiatement si elle ne maîtrise pas le langage de la secte.
Ça fait un petit peu penser également au jeu de rôle des enfants. Ça a un côté, je trouve, un peu infantile.
Ça fait penser aux jeux de rôle, mais en plus, les jeux de rôle sont utilisés par les sectes comme étant des passerelles et comme sorte de ciment de cohésion entre les membres. Et d'ailleurs, les rituels d'apprentissage dans les sectes sont en fait des jeux de rôle. C'est-à-dire qu'on met les personnes dans des rôles à jouer. Et lorsque le rôle à jouer a été joué de façon parfaite, il n'est plus rôle, il est nouveau personnage existant. Il y a un nouveau baptême qui se fait. Vous êtes rebaptisé, vous récupérez un nouveau nom et un nouveau langage qui est celui de la secte.
un ex-adepte de Moon, ingénieur agronome.
Vous êtes enseigné par une ancienne adepte de Moon qui vous lit un livre qui s'appelle « Les principes divins ». Ce livre est un livre où on trouve un petit peu de tout, où on trouve des notions de psychologie aussi bien que des notions d'histoire et de politique.
Avec un langage théologique très riche ?
Non, pas tellement. C'est, quand on le regarde de loin, ça paraît très, très primaire, mais assez surprenant. Quand on est enseigné directement, et pour la première fois, on ne s'aperçoit pas. Ça, on a l'impression que c'est très riche, il y a beaucoup de choses. Mais je crois qu'en de façon générale, on ne comprend pas très bien ce qui se passe qu'il y a dans le bouquin, parce que ce n'est pas très clair. Mais on est surtout frappé par un mélange d'idées qui... pourraient être acceptées par tout le monde, de bonnes idées généreuses, l'amour, la charité, qui sont noyées dans un fatras d'idées avec une incohérence qui n'apparaît pas au premier abord.
Xavier Pasquini, journaliste à Charlie Hebdo, spécialiste des sectes.
Les sectes utilisent je dirais un moyen détourné là aussi, c'est un paravent, on peut dire, c'est dans les associations. Par exemple, on a une façon d'amener les gens à la secte en détournant leurs bons sentiments ou leur volonté d'engagement. Bon, il existe la Ligue des droits de l'homme. C'est une association reconnue, respectée, qui fait un grand travail. C'est quelque chose qui attire l'attention des gens positivement. Les sectes l'ont compris et elles ont détourné le sujet à leur profit en créant des associations paravent. Par exemple, les moonistes ont créé une association qui s'appelle SOS Droits de l'Homme. Donc les gens qui ne sont pas très au courant des intitulés de la Ligue des Droits de l'Homme, des associations dépendant de la Ligue des Droits de l'Homme, peuvent penser qu'il s'agit d'une annexe de la Ligue des Droits de l'Homme. Mais il y a plus fort encore. L'église de Scientologie, elle utilise une association qui s'appelle Commission des citoyens pour les droits de l'homme. On retrouve trois mots qui sont fondamentaux dans l'engagement dans la société, c'est commission, citoyen et puis droits de l'homme. Donc on voit bien là qu'il y a une volonté de récupérer des gens en les abusant.
Es-tu opposé à la mise en liberté surveillée des criminels ? As-tu jamais été un élément perturbateur dans une famille ? As-tu jamais joint une famille pour te venger ? As-tu déjà dépossédé un membre de ta famille ? As-tu déjà mis un membre de ta famille dans l'ennui ? As-tu déjà travaillé contre ta famille ? As-tu pratiqué la sodomie ? As-tu couché avec un membre d'une autre race ?
Alors, les scientologues ont un questionnaire de plus de 200 questions. Je vous garantis que si vous répondez aux 200 questions, votre profil psychologique est tout à fait repéré. Vous êtes identifié et à partir de ce moment-là, on va vous proposer les solutions qui correspondent aux problèmes que vous êtes supposé avoir. Et à partir de là, l'engrenage est en marche et puis on se trouve dans une logique de laquelle on peut difficilement sortir. Il y a des questions très violentes. Par exemple, as-tu déjà castré quelqu'un ? As-tu déjà violé quelqu'un ? C'est la question qui nous hérisse, nous, qui provoque chez nous un sentiment de rejet. Or, il faut bien se dire que la personne qui supporte ce genre de questions, eh bien, ça veut dire qu'elle est capable de supporter beaucoup. Ce questionnaire est un baromètre. Il permet de savoir jusqu'où on peut aller avec l'individu qui est traité. Et ça, c'est une façon de procéder très insidieuse. Mais de la même façon, il y a quelque chose de plus violent encore. C'est la personne qui est auditée et à qui on pose une question. Elle répond, on lui repose la même question et on peut aller 50 fois de suite. Et il y a des gens qui continuent à répondre. Il est évident que celui qui, au bout de 3 fois qu'on lui dit ça, quitte la salle, lui n'est pas un adepte possible. Et celui qui reste pour 50 questions, bien entendu, on sait qu'on peut faire n'importe quoi avec lui.
As-tu été communiste ou quelque chose à voir avec le communisme ? As-tu jamais excité sexuellement quelqu'un sans l'avoir satisfait ? As-tu jamais été excité sexuellement par un objet ? As-tu jamais fait l'amour avec une personne appartenant à une autre? As-tu jamais utilisé le sexe de façon non éthique? As-tu jamais inventé des pratiques sexuelles perverses? As-tu jamais fait l'amour avec une personne que tu n'aimais pas? As-tu jamais utilisé une partie incorrecte de ton corps pour un rapport sexuel? As-tu jamais castré quelqu'un? As-tu déjà violé quelqu'un? As-tu jamais mal utilisé le sexe?
Il y a des sectes qui ont un discours fondateur. Si on prend par exemple Raël, vous avez un discours fondateur qui est Raël a reçu la révélation des Elohim. Les Elohim lui ont dit il faut sauver la Terre. Pour sauver la Terre, il faut préparer une ambassade pour les extraterrestres sur la Terre, une ambassade qui sera à Jérusalem. Donc là, vous avez un mythe qui est livré d'emblée.
Comment peut-on adhérer à ça?
C'est pas... Je veux dire, là on a la puissance de conviction de l'individu, c'est-à-dire que on cible sur des gens... Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui adhèrent à une secte ne sont pas fatalement convaincus de la vérité de la secte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adhèrent à des groupes sectaires par pur intérêt, et qui savent qu'ils vont progresser dans la secte pour faire partie des manipulateurs et non pas des manipulés. Faut-il encore qu'on soit capable de maîtriser totalement la trappe gogo et qu'on ne se fasse pas attraper par la trappe gogo au deuxième degré? Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que dans notre, j'allais dire, dans notre vide idéologique actuel, dans notre vide philosophique, vide doctrinal, vide religieux, etc., plus l'idée va être farfelue, plus elle répond à une aspiration mythique, à une aspiration magique, plus elle risque de passer. Vous avez une adaptation progressive à l'idée du groupe. Si les Raéliens vous vendent le package extraterrestre ambassade à la première entrevue, si vous rentrez à la Scientologie, on ne vous vend pas les tétans et on ne vous vend pas les organismes congelés qui viennent de la planète Xenu. Ça, on ne vous le vend pas la première fois. Ça n'arrive qu'après 2 ans ou 3 ans ou 4 ans d'adeptat. La première fois que vous rencontrez un scientologue, on vous propose d'être plus performant, plus efficace, d'être mieux adapté à votre poste de travail, de résoudre mieux vos conflits familiaux, vos conflits personnels ou professionnels, etc., etc. Donc là, on vous vend quelque chose qui est adapté à la réalité. Et peu à peu, la pratique qu'on va vous vendre va se... Il va y avoir un effet de distorsion par rapport au réel, et vous allez rentrer dans le magique et vous allez rentrer dans le mythe de l'association. Et c'est les fameux esprits venus d'une planète lointaine sous forme congelée qui se réchauffent dans les volcans d'Amérique du Sud pour revenir sur la Terre. Donc, on va vous vendre ça. Mais vous avez aussi un troisième élément, qui est le troisième élément, par exemple, celui du mandarome. Alors, la pratique cohérente, c'était la pratique du yoga, de la méditation, de la visualisation, qui était pratiquée par un individu qui s'appelait Gilbert Bourdin, et qui faisait ça de façon correcte au début de sa carrière, et qui, au fil du temps, s'est vu placé dans le statut de maître divin par ses disciples, s'est pris au jeu, et est devenu le messie cosmoplanétaire, ce qui fait que les disciples se sont retrouvés en train de chasser les Lémuriens 10 ans plus tard, parce qu'ils avaient fait le même trajet délirant que le maître, et ils avaient commencé à glisser dans la folie avec le maître.
Les maîtres ne pensent qu'à fusionner avec l'esprit cosmique pour aider les autres. Ils s'illuminent. Leur sentiment d'abnégation, de sacrifice, de patience, de tolérance, de douceur, d'amour, de pureté, les placent au sommet de cette échelle de sentiments. Ils savent que pour rendre plus subtile la qualité de son émanation, l'homme doit appliquer la loi de la vaporisation. La vaporisation, qui est la transformation de l'épais en subtil, nécessite l'augmentation de la surface libre de l'air, de la température et une puissante pression intérieure. C'est pourquoi, pour vérifier cette loi, ils travaillent depuis des siècles sur leurs émanations en se libérant, augmentation de la surface libre, par la pensée, air, par l'amour spirituel, chaleur, et par l'augmentation de la pression intérieure, foi. Les foyers initiatiques qu'ils créent préparent des conditions meilleures pour toute l'humanité.
Comment se fait-il qu'à un certain stade d'irrationnel, l'esprit critique de l'individu ne se réveille pas tout de même pour dire « non mais là, où m'entraîne-t-on » et pour critiquer ce discours, ce galimatia qu'on lui impose?
Alors, Il y a eu un sociologue qui a étudié le problème, il s'appelle Festinger. Et Festinger a théorisé, il a décrit ce qu'il appelait la résolution de la dissonance cognitive. Alors la résolution de la dissonance cognitive, ça veut dire quoi en termes clairs? Ça veut dire que lorsque quelque chose auquel vous croyez s'avère totalement aberrant, ça vous remet en question dans votre vie, dans vos convictions, dans votre statut. Et à ce moment-là, vous ne faites pas un effort pour vous libérer de ce quelque chose, mais au contraire, vous faites un effort pour aller dans le sens d'une plus grande croyance. Et si votre croyance de départ a été affirmée devant des témoins, eh bien vous êtes encore plus adhérent à cette idée aberrante qu'on va vous révéler. Alors, Festinger raconte l'histoire d'une secte qui attend la venue des extraterrestres qui doivent sauver la planète de l'apocalypse. À grand renfort d'articles de presse, on annonce la date exacte de cet apocalypse et donc de ce sauvetage par les extraterrestres. Le jour de l'apocalypse arrive, rien ne se passe, et là tout le monde se dit, la secte va exploser, on va remettre en question la prêtresse de la secte et on va dire, c'est une aberration, et il faut arrêter cela. Mais pas du tout. La secte, à ce moment-là, se renforce. Elle se renforce pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a un nouvel argument qui est développé, qui est, si l'apocalypse n'est pas venu, si les extraterrestres n'ont pas eu besoin de venir sur Terre pour nous sauver, c'est parce que nos prières ont sauvé le monde. Donc l'erreur devient preuve de vérité.
Nous sommes depuis une dizaine d'années dans ce que j'appelle les années New Age. C'est-à-dire qu'on a ripolliné toutes les vieilles recettes de l'occultisme. Avant, on avait le spiritisme, par exemple. Ça ne marchait plus tellement dans les années 80 à 90. Et aujourd'hui, ça revient à la mode. Mais ça ne revient pas à la mode en tant que spiritisme, revient à la mode en tant que channeling, de l'anglais channel, canal. Donc on a ripolliné le terme, on l'a anglicisé, et puis finalement... par exemple l'étude des vies antérieures, on n'appelle pas ça l'étude des vies antérieures, on appelle ça le rebirth. Donc avec des mots anglais, finalement on donne une apparence de nouveauté à ce qui est finalement aussi vieux que l'humanité, c'est-à-dire rechercher la discussion avec les morts, rechercher dans des méthodes totalement irrationnelles un sens à la vie.
Luc Jouret, Ordre du Temple Solaire.
Nous devons absolument intégrer cette notion fondamentale, qu'il n'y a pas de hasard dans l'expression de la vie d'un être vivant, que tout est hiérarchisé, tout en étant unitaire dans un mode de fonctionnement et d'expression. Et je rappelle aussi, parce que c'est bouleversant lorsqu'on se penche sur cette dimension-là, c'est que ce jeu éminemment complexe, éminemment... merveilleux, en quelque sorte, découle d'une cellule souche et un beau jour débouchera sur ce qu'on appelle la mort.
Il y a d'abord des phrases qui sont absolument, assez hermétiques. Alors, par exemple, dans une secte, on va vous dire « Toute vérité nie la réalité, le neutre n'existe pas. On tombe malade lorsqu'on perd son terrain immunitaire de pensée. Les solutions sont une fermeture à l'évolution. » Dans une autre secte aussi, alors écoutez, là, on parle d'un ordre de non-enturbulation. Je sais pas ce que, vous savez ce que ça veut dire, l'enturbulation? Moi, je ne sais pas. Alors voilà des phrases qui sont adressées à quelqu'un. Des actions, commissions, entreprises pour sciemment suppresser, réduire ou gêner la scientologie ou des scientologues est un acte suppressif d'après HCO, PL, c'est un cours. Une autre phrase, il a aussi été trouvé que Jean-Luc a enturbulé différents membres du personnel de son entreprise qui eux-mêmes sont scientologues et dont les rapports figurent dans son dossier d'éthique. Enfin voilà. Revenons par exemple à la famille d'amour ou les enfants de Dieu. Si l'on parle de murmurer, cela veut dire douter du message de Moïse David quand on est dans la famille. Casser la bouteille, ça veut dire humilier publiquement. Berger, serviteur, ce sont des noms successifs donnés aux leaders de différents groupes, que l'on appelle colonies, toujours dans la famille de Dieu. Bon, vous avez une autre secte qui s'appelle l'Église du Christ, qui malheureusement recrute beaucoup auprès des étudiants. Alors là aussi, il y a tout un langage. Par exemple, tomber, ça veut dire quitter l'Église. Éviter, ça veut dire retirer l'approbation, l'affection à une personne qui ne se conforme pas à l'Église, bien sûr, l'Église du Christ. Action énergique, ça veut dire aller vers un groupe pour inviter des gens à l'Église. Satan peut trouver un appui, c'est-à-dire, attention, c'est si vous avez trop de contact avec le monde extérieur.
Derrière cette manipulation du langage, cette distorsion du langage, quelle stratégie y a-t-il ? Comment ça fonctionne sur l'individu ?
Alors, dans l'utilisation d'un mot nouveau, ou dans l'utilisation, disons, d'un mot dans un sens nouveau, il y a toujours une stratégie qui vise à faire accepter la pensée de l'enseignant, la pensée du gourou. Par exemple, dans l'instinctothérapie. Dans l'instinctothérapie, on a l'utilisation d'un terme qui est la relation verticale, ou la pulsion iocastique, en référence avec Jocaste, la mère d'Édipe. L'évocation de la relation verticale, dans une première approximation, c'est simplement le rapport qu'il y a entre un adulte et un enfant. Et la pulsion iocastique, ce serait la pulsion qui pousse une femme à aimer un enfant, mais à aimer au sens sexuel du terme. Alors, c'est relativement facile à parler de relation verticale. Si on décode le discours qui est derrière ce terme, on est obligé d'interpréter et de voir que la notion de relation verticale englobe la relation pédophilique. On ne peut pas enseigner spontanément la relation pédophilique. On ne peut pas dire la relation pédophilique est normale, elle s'inscrit dans les gènes, elle est résultat d'une culture, etc., etc. Par contre, on peut très bien dire relation verticale parce qu'il y a une mise à distance du côté tabou et du côté illégal de la relation pédophilique. Lorsque la personne a suffisamment maîtrisé cette notion de relation verticale, à ce moment-là, elle appréhende la notion pédophilique. Ce qui veut dire qu'en fait, le terme, au départ, est un terme qui est acceptable par tous, mais recouvre une idée qui n'est acceptable que par ceux qui ont fait la démarche volontaire d'adhérer complètement à la secte. Donc, si vous voulez, on a une sorte de langage alibi qui masque en fait le but précis de la secte. On va leur dire, par le biais de la relation sexuelle avec un enfant, tu vas pouvoir donner l'initiation, la vérité, etc. Tu vas transmettre le message qui est celui que tu as reçu toi-même, etc., etc. Et la pédophilie devient une forme de langage. Une forme de langage sacralisé et non plus un tabou culturel ou un tabou social.
J'ai perdu tout mon sens critique, mais petit à petit. Et à la fin, quand il a dit des choses tout à fait aberrantes, comme maintenant, finis votre mode de témoignage en allant dans les rues et en rentrant en contact avec les jeunes. Investissez l'argent que vous avez dans des habits valables et allez dans des discos chouettes, allez draguer des types bien et coucher avec. Et faites qu'ils deviennent vos amis et vos amis intimes afin qu'ils puissent vous aider. Moi, à ce moment-là, j'ai tout à fait accepté ça. Et cette soumission est grâce chez les enfants de Dieu parce qu'elle a amené pas mal de filles, disons, la plupart des filles actuellement, à faire ce que le leader appelle le flirty fishing. Alors le flirty fishing, quand on le traduit littéralement, c'est pêche flirteuse. Quelque chose comme ça. Je vais vous lire un extrait d'une lettre de Moïse David à circulation interne qui est simplement lue par les disciples au niveau de la communauté et personne d'autre n'en a connaissance à part les enfants de Dieu eux-mêmes. Baiser n'est rien. Qu'est-ce qu'un petit baisage entre amis s'il en a besoin ? Rien. Cela l'aide à être satisfait. Ce n'est pas un jeu et être poisson flirteur à pas est une affaire sérieuse. Mais si vous êtes vraiment sincère et convaincu à ce sujet, vous pouvez découvrir que c'est une des occupations les plus passionnantes, excitantes, fascinantes et rémunératrices. Comme Jésus l'a dit à certains pêcheurs qui l'ont compris, « Venez après moi et je vous ferai pêcheur d'hommes ».
Il y avait des grosses aberrations, de l'hypocrisie parmi les disciples et parmi les leaders. Je l'ai remarqué, disons, au bout de 2 ans chez les enfants de Dieu. C'est là que j'ai exprimé la première fois le désir de partir et où on m'a reprogrammé pendant 48 heures dans une chambre jusqu'à ce que... Enfin, reprogrammé, c'est-à-dire qu'on m'a lu des textes du fondateur jusqu'à ce que je cède. Et j'ai cédé parce que je ne pouvais pas faire autrement. Ils étaient à deux sur moi. Et je suis redevenu à ce moment-là un bon disciple et rapidement un bon leader, comme il disait.
Il y a des sectes qui utilisent des techniques hypnopédiques, c'est-à-dire des formules à répéter, des mantras à répéter. Bon, le plus classique, c'est l'homme manipadeum, 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 manipadeum. Et on a des sectes qui demandent à leurs adeptes de répéter telle ou telle formule, par exemple, 10 000 fois par jour. Pour progresser de degré en degré, il faut réciter 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois la formule, 10 millions de fois la formule, etc., etc., pour pouvoir monter de degré en degré. Et ce phénomène d'hypnopédie, ce phénomène d'auto-hypnose, c'est un phénomène bien connu. Ça sert en fait à créer un état de bien-être. Je veux dire, la répétition d'une formule systématique avec des sons qui sont des sons qui réveillent en fait presque des vibrations cachées à l'intérieur de l'individu, c'est extrêmement connu. Alors c'est un phénomène extrêmement complexe et qui utilise aussi bien le son instrumental que le son parlé, que la voix, que les mantras.
Est-ce que l'on peut considérer que c'est le début du lavage de cerveau ?
Ah ben, on peut, non seulement on peut considérer, mais c'est du lavage de cerveau.
Le langage, pour tout individu normalement constitué, sert à échanger avec l'autre. Or, dans une secte, le langage, il est circulaire. Il est organisé, en fait, autour de la personne du gourou et il ne véhicule que la pensée du gourou sans qu'il y ait possibilité de modifier l'architecture du langage humain ou de la réflexion. Donc, il n'y a pas de possibilité d'échange, il est simplement endoctrinement. Mais on a exactement le même type de discours au sein des partis totalitaires, des partis fascisants. La fascination pour le nazisme et les grands phénomènes de masse nazis se sont fondés sur un langage qui était issu du Führer. Il n'y avait pas de possibilité d'analyse du discours du Führer, qui était présenté comme vérité révélée.
Impressionnant, un stade plein à craquer, 45 000 personnes, 45 000 mounistes, enthousiastes, fervents, recueillis, toutes couleurs et générations confondues. Et au milieu du stade, un ballet venu d'Orient, des danseuses coréennes qui annoncent, à leur manière, l'arrivée du Messie. Il arrive enfin, c'est lui, c'est Moon. Les 45 000 adeptes se lèvent comme un seul homme, agitent des petits drapeaux américains, ne le quittent plus des yeux et le regardent s'avancer vers le podium. Pas de surprise, le message ne change pas. L'Occident est laminé par la crise des valeurs, le communisme gagne du terrain. Seul un nouveau Messie peut sauver le monde libre et chrétien.
Raël, alors ça c'est un personnage intéressant puisqu'il y a 25 ans à peu près, il a été enlevé par des extraterrestres. Arrivé là-bas, je crois que c'est Vénus, on lui a fait rencontrer Bouddha, Jésus, Mahomet. Et puis ils lui ont dit qu'il avait une mission sur Terre, c'était de préparer l'arrivée des Elohim, des extraterrestres. Donc ils l'ont renvoyé ici et depuis il tente d'ouvrir des ambassades. Alors lui, il rêve d'un monde bâti sur la géniocratie, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que les génies qui pourraient voter, être élus et dirigés, et puis les autres, eh bien, se contenteraient d'être des esclaves. Et lui a des projets pour l'humanité, mais des projets qui évoluent. Par exemple, il y a une quinzaine d'années, il expliquait donc
dans son enseignement que les extraterrestres pouvaient communiquer des informations par injonction de matière cervicale mémorielle. Alors ça, c'est très fort. Il y a quelques années, il demandait à ses adeptes de signer un papier comme quoi il fallait préserver un bout d'os frontal à partir duquel on pourrait rebâtir quand la science en aurait les moyens. Or, depuis 2 ou 3 ans, depuis l'apparition du clonage, il a créé une association qui s'appelle Clonehead, et là il fait des propositions de deux sortes, soit de déposer un gène à la banque Clonehead, soit de créer un enfant à partir du gène d'un des parents, donc un enfant qui ressemblerait soit au père soit à la mère. Et quant à ceux qui déposent un gène, eh bien c'est dans l'hypothèse de refaire finalement un corps, et ce corps servirait ensuite de réceptacle au cerveau de l'individu vieillissant dont on aurait greffé le cerveau sur un corps jeune.
Le langage des sectes, une émission de Françoise Esteb avec Jean-Marie Abgral, médecin psychiatre, expert en criminologie auprès des tribunaux, auteur de La mécanique des sectes, document Payot, et des sectes de l'Apocalypse chez Calman Lévy. Xavier Pasquini, journaliste à Charlie Hebdo, spécialiste des sectes, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, parmi lesquels l'Encyclopédie des sectes dans le monde. Jeannine Tavernier, présidente de l'UNADFI, Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu. Archive INA. Les textes étaient lus par Antoine Lachan. Mixage Jean-Michel Després, Jean-Claude Gauthier. Réalisation Brigitte Bouvier.
Et bien après ce documentaire, avec vous, Annie Drougou, nous allons tenter de vous prouver qu'on peut continuer de faire une émission qui n'a rien d'objectif, mais qui est honnête. Annie Drougou, vous êtes l'auteur du Dico des sectes aux éditions Milan, et vous travaillez au centre Roger Icor, centre contre les manipulations mentales, et par ailleurs, vous êtes agrégé de grammaire, donc les sectes, la langue, tout cela vous concerne. Est-ce que vous pourriez, puisque vous venez d'entendre ce documentaire, nous dire ce matin ce qu'il vous inspire comme réaction ?
Ce qui me frappe le plus, c'est peut-être, après avoir écouté plutôt une étude du vocabulaire lui-même, ce qui me frappe le plus dans le discours des sectes, c'est la naïveté avec laquelle les adeptes sont capables d'avaler des soupes absolument incroyables, en faisant abstraction de tout bon sens et de tout rationnel. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être d'ailleurs ce qui a été le but de ce dico des sectes que j'ai écrit, c'était de montrer en hypertexte toute une série de citations sur lesquelles il ne faut pas se méprendre, parce que la plus grosse erreur qu'on pourrait commettre serait peut-être de dire « ce sont des délirants, en ce qui me concerne, je ne me laisserai jamais avoir ». Or, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'on arrive à avoir différentes formes de langage, je vous en donnerai quelques exemples de citations, des langages qui sont irrationnels, abscons, ésotériques, scandaleusement fascistes, on peut le dire, mensongers, impudents, de tout délirant, mystique, etc., et qui pourtant trouvent oreille, puisque les adeptes sont capables de les accepter.
Mais alors justement, Annie Drougou, on ne va pas faire ce qu'on fait souvent, à savoir analyser le gosier, si j'ose dire, de ces avaleurs de soupe, mais présentez-nous cette soupe même, si souvent, trop souvent avalée, dites-vous.
Ce qui me frappe le plus, c'est par exemple, j'en prends une au hasard, ce qui concernera le discours sur la médecine. Et Dieu sait qu'actuellement, les terreurs sur la médecine, l'échec relatif des médecines classiques dans, en tout cas, la guérison miraculeuse des grandes maladies comme le cancer ou le sida, permet un développement parfaitement anarchique des psychothérapies ou des médecines qui se prétendent thaumaturgiques. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable, pour faire passer cette soupe thérapeutique à des gens qui sont vraiment malades ou à leur entourage, de leur tenir des discours comme celui que je vais vous donner. Le terme « maladie » peut être lu phonétiquement si l'on prononce le « e » final comme « mal à Dieu ». Être mal avec Dieu. Les niveaux d'élévation des huiles saintes pour onction permettent la mise en relation vibratoire avec les différents plans constituant les corps énergétiques de l'être humain. Ça laisse rêveur.
Mal à Dieu, sans vouloir me faire l'avocat du diable, et Dieu sait si parfois les sectes sont liées au satanisme, c'est d'ailleurs le titre d'un livre qu'il faut recommander chez Goliath de Paul Ariès. Sans me faire l'avocat du diable, donc mal à Dieu, c'est pas mal. Ce qui reste est absolument ridicule, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas? Mais ce jeu peut être très, très vite pernicieux, c'est-à-dire qu'il peut induire des gens fragilisés par la notion même de maladie, qu'elle soit la leur propre ou celle de leur entourage proche. Elle peut amener ces gens à se laisser complètement endormir et anesthésier par un discours pareil. On trouve par exemple dans la science et santé avec la clé des écritures de Mary Baker Eddy, on trouve des phrases qui, moi, me choquent. C'est la science chrétienne qui dit ça. On ne guérit pas les maladies simplement en déclarant qu'il n'y a pas de maladie, mais en sachant qu'il n'y en a pas.
Qui déclare ça
Mary Baker Eddy, qui était là, elle est décédée, mais elle avait fondé, c'est une Américaine qui avait fondé la science chrétienne. Et il y a eu pas mal de procès aux États-Unis pour non-assistance à personne en danger, mort d'enfant et autres. C'est quand même très inquiétant de se dire qu'on peut faire passer un discours complètement flou, creux, vague, abscon, et de le faire passer comme une ordonnance médicale. Et ça, je crois que c'est quand même très inquiétant. Alors, on va trouver dans cette notion de vocabulaire médical la justification, qui est une justification vraiment dangereuse, de toute une série de pratiques qui peuvent être une justification de la pédophilie, des rapports complètement pervers à la sexualité, pervers à la séduction ou pervers à la religion, en prenant un langage en apparence compréhensible, mais qui, lorsqu'on le creuse un peu, apparaît complètement creux et vide.
Vous pourriez donner des exemples, Annick Drogou ?
C'est quand même intéressant de faire passer, par exemple, le cancer ou le cancéreux, ce que vous avez dans la trilogie analytique, par exemple. Le cancéreux est atteint d'autodestruction. Le cancer est un suicide inconscient. Le virus HIV est un rétrovirus à cause de la transcriptase dite inverse qui fait que HIV est un ARN et pas un ADN. C'est un rétrovirus et ce type de virus est toujours non toxique. Moi, je mets au défi qui que ce soit de décrypter ce genre de langage ou alors de s'apercevoir que c'est une supercherie. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu récemment au centre Roger Icor, sous mes yeux, des documents qui affirmaient, et venant d'universitaires patentés, affirmaient que le sida était un virus virtuel.
Mais vous citiez la source tout à l'heure et vous
la trilogie analytique. Oui.
Qu'est-ce que c'est la trilogie analytique?
C'est un groupe qui à l'origine s'est voulu un petit peu d'émanation, je dirais presque anarchiste ou anarcho. Oui, anarchiste, et qui a toujours tenté de se démarquer de ce qui apparaissait, le pouvoir absolu, les pouvoirs médicaux, la trop grande importance des vaccins, le refus des médications traditionnelles.
J'ai l'impression que, très souvent, on dit « les sectes sont liées à l'extrême droite ». Vous avez tout à l'heure employé le mot « fasciste ». Or là, vous citiez une secte qui viendrait de l'ultra-gauche ou de l'anarchie.
C'est-à-dire qu'on trouve, si vous voulez, c'est ça qui est gênant, on trouve un certain nombre de groupes que je ne citerai pas parce que je ne vous veux pas d'ennuis, un certain nombre de groupes dont on peut raisonnablement penser qu'ils s'appuient sur l'humanitaire, sur l'écologie, sur en particulier toutes les mouvances post-68ardes, un peu babacool, un peu retour à la terre et à la nature. Par exemple, je vais vous donner une citation qui émane de la Nouvelle Acropole dans le labyrinthe de Lapis Lazuli, qui a été écrit par Livraga, le fondateur de ce mouvement Nouvelle Acropole.
En quelle année à peu près ?
Dans les années 50.
D'accord.
Ce qui est intéressant, c'est que on est capable de vous amener à commettre le salut fasciste en vous expliquant qu'il faut que le bras soit à 45 degrés, etc. Et voilà comment on va le justifier. Quand vous levez le bras droit au-dessus de votre horizon oculaire avec une intention sacrée, se produit une accumulation positive qui vous permet de donner la dignité au véhicule physique en verticalisant ses énergies, en le faisant récepteur et transmetteur d'une impulsion de vie qui est fondamentale pour la naissance de l'homme nouveau. Ça laisse rêveur.
Et on se dit qu'il n'y a pas plus grand producteur de langue de bois qu'une secte, en définitive.
Producteur de langue de bois et même, et c'est ça qui est intéressant, impudemment mensonger. C'est-à-dire où le mensonge est revendiqué comme tel. Par exemple, dans la secte de Moon, dont tout à l'heure il y avait un exemple, on va vous dire, le Sun Yun Moon est capable de dire, même si ce que je dis est un mensonge, vous ne pouvez rien perdre en suivant cette manière de vivre. Supposez que j'ai créé toute une théorie nouvelle pour unir le monde, théorie à laquelle Dieu n'a jamais pensé, Dieu descendrait et marchanderait avec moi pour me l'acheter. Il y a une impudence, un mensonge présenté comme une valeur.
Une impudence mégalomaniaque.
Totalement, totalement mégalomaniaque, mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche. C'est-à-dire que c'est un peu comme si les gens acceptaient de se faire violer les oreilles. Ils entendent des choses que, autrement, dans la société, ils n'accepteraient jamais en criant à la corruption, au scandale, à la prévarication, à tout ce que vous voulez, qui est dénoncé par les médias. Et un gourou est capable de leur dire, même si ce que je dis est un mensonge, vous devez l'accepter.
C'est vrai, Annie Drogou, tout tourne autour d'un mot, d'ailleurs, qui n'est pas dans votre dictionnaire, c'est un des rares à ne pas l'être, qui est le mot « consentement ». Et je citais tout à l'heure Paul Ariès et son livre sur le satanisme et l'extrême droite aux éditions Goliath. Et dans la conclusion de ce livre, il a une phrase en disant « Si on rétablissait l'esclavage, il y aurait toujours quelques êtres pour y consentir ». Mais ce consentement, bien entendu, est obtenu au moyen du langage. Et je voudrais que vous nous donniez encore un ou deux exemples, puisque après le documentaire que nous avons entendu tout à l'heure, vous êtes venu ce matin pour nous mettre dans un bain de textes, après oui. Qu'on a compris pourquoi de tels textes pouvaient avoir de tels effets.
Regardez comment Maharaji, par exemple, la mission de la lumière divine, est capable de dire « Je suis venu pour vous apporter la connaissance et il importe que vous en réalisiez l'importance. Ce n'est pas difficile, mais c'est sûr qu'en même temps c'est très difficile, croyez-moi. Néanmoins, d'un autre côté, cette connaissance est la chose la plus facile qui soit. Plus la question est grande, plus la réponse est petite et vice-versa. » Réaliser, essayer de comprendre, parce que cette connaissance est très belle. Comment puis-je vous dire à quel point elle est belle ? Il n'y a pas de description, mais cette connaissance est magnifique, elle est extrêmement belle, et elle est ici pour que nous la réalisions. Alors, réalisez-la, parce que ça dépend entièrement de vous. Vous vous rendez compte d'une conférence entière qui peut être faite par un gourou, qui, bien évidemment, dit tout et son contraire, et réciproquement, etc., et qui envoie ses adeptes se fonder toute leur action, leur présence au monde sur un langage qui n'a strictement aucun sens.
Non, au point que ça me fait presque penser au théâtre de l'absurde, et je pense en particulier à UNESCO, et à une pièce qui s'appelle « Tueur s'engage », vous la connaissez sans doute, sûr. Où il y a le fameux discours de la mère Pipe, qui est un discours, évidemment UNESCO s'inspirait plutôt des harangues dans certaines démocraties populaires d'Europe centrale, et puis même du fascisme qui les avait précédés. Mais c'est tout à fait étonnant, effectivement, ce discours qui tourne à vide et qui néanmoins s'avance efficace.
Et surtout, qui est d'autant plus dangereux, si vous voulez, que non seulement il assoit une sorte de hiérarchie à l'intérieur du groupe, mais il assoit aussi la mythologie du gourou. C'est-à-dire qu'on va vous faire passer, avec des phrases totalement absconses, dont je vais vous donner un exemple, la présence et l'omnipotence incontournable et surtout incontestable d'un gourou. On va vous dire, par exemple, à propos de Isozen, qui ne s'appelle plus comme ça, qui s'appelle Sidérella, enfin, qui a beaucoup changé de nom, « La copulation de ses parents, génitrice de son être formel, s'est réalisée avec l'immersion des énergies de contrôle des conjonctions chromosomiques favorables. » Et si vous regardez cette citation, vous vous apercevez que vous avez tout. Vous avez les chromosomes, vous avez les énergies, vous avez la conjonction, vous avez un peu de génitrice, un petit peu de gène, etc. Et c'est un langage qui est à la fois tellement porteur d'éléments de mode, ou de ce qu'en tout cas les gens lisent, écoutent dans les médias ou dans leurs revues, que cet ensemble, cette fausse cohérence, cette fausse cohésion plutôt, entre les mots par le biais d'une syntaxe, arrive à un discours totalement vide de sens, mais qui est porteur.
Écoutez, Annick Drogou, merci de nous avoir fait entendre cette logorée savoureuse et scélérate. C'était donc une sorte de bain de langage sectaire. Ce bain n'avait rien, j'espère, d'un lavage de cerveau, peut-être juste d'un toilettage indispensable. Annick Drogou, je rappelle que vous êtes l'auteur aux éditions Milan du Dico des sectes.
Est-ce que je peux juste ajouter un dernier mot? J'ai fait un peu ce dictionnaire autour d'une citation de La Boétie, qui est le grand humaniste du XVIe siècle, ami intime de Montaigne, qui disait « Non, N-O-N, la privation de cette seule syllabe condamne un peuple à la servitude. »
C'était Tire ta langue par Antoine Perrault. Réalisation François Connac.
Je ne sais pas qui est Moon, et j'ignore ce qu'il enseigne aux gens. Mais je sais que si je ne trouve pas bientôt mon Moon à moi, il ne me restera plus qu'à diriger vers mon front le canon luisant d'une machine triomphante pour effacer la geste de l'univers au clair de la Moon.
C'était Le langage des sectes, un numéro de Tire ta langue d'Antoine Perrault et Françoise Estève. Réalisation François Connac, première diffusion le 16 avril 1999.